Effectivement, c'est un séminaire, le troisième aujourd'hui, qui s'inscrit dans un projet au plus long cours de réflexion sur le juge et sur les représentations du juge. Et il m'a paru naturel, évidemment, de commencer, pour ce qui me concerne, par une séance sur le juge, la figure du juge dans la philosophie. Mais évidemment, une séance ne suffisant pas, j'ai choisi une figure particulière, et en particulier celle qui ressort de la lecture de la philosophie platonicienne. Alors, d'abord, à titre introductif, je dirais que quand on aborde la fonction du juge ou la question du juge sous l'angle de la philosophie, on s'attend immédiatement à considérer non pas la pratique concrète du juge, mais bien d'emblée les représentations du juge, puisque effectivement la philosophie fonctionne par concept, par abstraction, par représentation, et a donc souvent une certaine distance, ou elle établit une certaine distance entre son discours et l'objet qu'elle prend pour objet donc de réflexion. Et donc on s'attend à trouver en philosophie de nombreuses figures du juge, justement, représentations, idéotypes, modèles, qui permettraient de nourrir la réflexion éventuellement critique de théoriciens du droit, par exemple, sur le juge. Et pourtant, et c'est de là que je partirai ce soir, pourtant, la philosophie propose en fait très peu de figures du juge. Alors, bien sûr, il y en a plusieurs, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais en fait, il y en a relativement peu. Bien sûr, on trouve en philosophie des théories politiques qui s'intéressent aux différents rôles ou aux différents pouvoirs de l'État. On trouve aussi en philosophie des études rhétoriques, argumentatives, logiques, qui s'intéressent au raisonnement du juge et au jugement en général. Mais, à de très rares exceptions, les philosophes se sont relativement peu intéressés à la figure du juge proprement dite, comparée à d'autres figures politique que l'on connaît, comme par exemple celle du souverain ou même la figure du législateur. Alors, cette indifférence relative, hein, évidemment, de la philosophie à l'égard du juge, elle a une histoire. Et plus précisément, l'hypothèse que je vais essayer de développer ce soir, c'est que ce désintérêt de la philosophie pour la figure du juge est lié à l'institution de la philosophie comme discipline et à son moment fondateur chez Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors certes, Platon n'est pas historiquement le premier philosophe, hein, ce n'est pas le seul philosophe qui ait contribué à l'institution de la philosophie, mais l'œuvre de Platon, et surtout la place que tient dans l'œuvre de Platon la figure de Socrate en particulier, sur laquelle on va beaucoup revenir aujourd'hui, cette œuvre, elle peut être considérée comme un moment d'institution de la philosophie, comme discipline. C'est là qu'elle trouve ses lettres de noblesse comme discipline à part et qu'elle se différencie d'autres disciplines qui lui étaient liées. Au point d'ailleurs qu'on va appeler les philosophes antérieurs des pré-socratiques. Donc c'est un moment de rupture en quelque sorte. Et ce que je souhaite exposer ce soir de façon un peu schématique, c'est que ce moment de rupture ou d'institution de la philosophie se fait chez Platon en opposition au droit et plus particulièrement en opposition aux pratiques judiciaires. Autrement dit, la figure socratique qui va incarner pendant des siècles la sagesse philosophique va s'imposer par opposition à la figure du juge, notamment, et en tout cas par opposition aux figures publiques en général. Et là, évidemment, il faudra peut-être distinguer ensuite. Pourquoi ? Parce que la figure du juge, comme les autres figures publiques, vont incarner la corruption de l'ordre politique, à laquelle va s'opposer la sagesse philosophique. Alors, pour expliquer ce lien, si vous voulez, entre institution de la philosophie et figure du juge, je vous propose un exposé en trois parties inégales. Hein, on ira de la plus longue, enfin de la plus. Oui, celle qui prend le plus de temps à celle qui peut-être en prend le moins. Comme ça vous rassure tout de suite si vous trouvez que la première est longue. Dans un premier temps, ce sera la partie peut-être la plus abstraite, mais c'est inévitable. Je devrais revenir sur la métaphysique de Platon, sur la métaphysique platonicienne, même si je vais la caricaturer pour les besoins de l'exposé. Parce que sans cette métaphysique, on ne peut pas comprendre la figure du juge chez Platon. Donc c'est un préambule nécessaire pour expliquer comment émerge la figure du juge. Dans un deuxième temps, j'évoquerai le procès de Socrate, précisément parce que c'est cette fois-ci un procès avec une figure de juge, et je le montrerai pourquoi Platon l'utilise comme un moment paradigmatique, justement pour définir la sagesse philosophique, et pour dénoncer l'arbitraire de la justice humaine. Et puis, dans un troisième temps, plus compliqué pour moi, à mon avis, je reviendrai sur un mythe un mythe qui est présent dans Gorgias de Platon, dans lequel Platon va exposer non plus cette fois-ci la figure négative du juge, la figure du juge corrompu, mais au contraire une figure idéale du juge, ce que le juge devrait être. Et j'essaierai de lancer des pistes de réflexion sur la postérité qui a eu, selon moi, cette représentation idéalisée du juge. Voilà le programme. Alors, pour reprendre rapidement, le plus rapidement possible, la métaphysique platonicienne, et en tout cas ce qui nous intéresse pour comprendre la figure du juge, je rappellerai ceci que certains d'entre vous doivent peut-être bien connaître, parce que c'est classique. Platon établit un dualisme, c'est-à-dire qu'il divise la réalité en deux mondes, et deux mondes qui sont distincts en réalité, l'un de l'autre. D'un côté, il y a le monde du corps, le monde des sens, le monde tel que nous le percevons, par les sens justement, et c'est ce qu'on appelle en métaphysique le monde sensible. C'est le monde tel qu'il nous apparaît, tel qu'on le voit, mais tel qu'il nous apparaît. Mais, dit Platon, les apparences ne sont pas fiables. Les apparences nous trompent, elles sont changeantes, elles sont variables, et donc ce monde des apparences, est aussi un monde d'opinion et de croyance. Ce que l'on croit vrai un jour s'avère faux le lendemain, et donc on ne peut pas se fier à ce monde comme on ne peut pas se fier aux apparences. Tout ce qui se déroule dans ce monde sensible est donc, pour Platon, sujet à l'erreur, ça nous, peut nous conduire à des erreurs, mais aussi c'est sujet à manipulation, parce que tous ceux qui savent se jouer des apparences peuvent justement manipuler ce monde pour exercer, on le verra tout à l'heure, une certaine forme de pouvoir à l'égard de ceux qui ne savent pas les manipuler. Donc ça, c'est le monde sensible. Et puis Platon coupe ce monde sensible d'un autre monde qu'il appelle intelligible. Alors qu'est-ce que c'est, enfin, pas seulement Platon, mais qu'on appelle en métaphysique intelligible, qu'est-ce que c'est ce deuxième monde? Eh bien, ce n'est plus le monde tel qu'il nous apparaît, c'est le monde tel qu'il est. Et cette distinction métaphysique essentielle, c'est de dire que ce qui est vraiment, en fait, ne nous apparaît pas. Ce qui est vraiment nous reste invisible. Et donc, ce monde, ce n'est pas le monde que l'on voit, ou ce n'est pas le monde que l'on perçoit, c'est le monde auquel on accède par la pensée. Pourquoi par la pensée? Parce que la pensée est capable, elle, d'aller au-delà des apparences, de voir ce que les apparences nous cachent. Donc, ce monde intelligible, c'est le monde des idées. C'est le monde de l'esprit, et vous l'aurez compris, c'est évidemment le monde de la philosophie. Alors, pour Platon, ce monde intelligible, c'est le vrai monde, c'est-à-dire celui qui n'est pas fondé sur des apparences, mais au contraire sur ce qui est en soi, sur ce qui ne varie pas, ce qui ne change pas, et donc ce qui est. Ce qui est, pour Platon, dans ce monde, ce qui peuple ce monde, je résume, je raccourcis hein, pour les besoins de la présentation. Ce qui peuple ce monde, c'est essentiellement des idées. Et ces idées, elles sont invariables et elles sont les modèles dont les apparences que l'on perçoit alors dans l'autre monde ne sont finalement que des copies. Des copies qui, en étant copies, sont trompeuses, changeantes, variables et donc qui ne sont évidemment jamais à la hauteur de l'idée. Hein, tout ce qu'on pourra vivre dans le monde sensible sera toujours, ça c'est pour conclure de ce dualisme, tout ce qu'on pourra vivre dans le monde sensible sera toujours finalement une pâle copie de la vraie réalité, c'est-à-dire la réalité des idées. On a donc deux mondes chez Platon, l'un visible, l'autre invisible, l'un qui est fait d'apparences trompeuses, l'autre qui est peuplé d'idées, l'un qui est dédié aux affaires ordinaires de la vie humaine et l'autre qui est réservé à ceux qui se consacrent à la pensée. Hein, seuls ceux qui se consacrent à la pensée ont accès à ce monde au-delà des apparences. Puisque précisément, et c'est là qu'on va y arriver, pour se consacrer à la pensée, il faut, dit Platon, renoncer aux apparences. Alors, ce monde intelligible, l'homme ordinaire ignore son existence, puisque précisément il ne le voit pas. Et le philosophe, lui, le connaît, puisque précisément il pense, et donc il est capable d'aller au-delà des apparences. Et donc, le philosophe a accès à ce monde. Parce que le philosophe, c'est là qu'on voit la définition que donne Platon de la philosophie. Évidemment, je parle ici chez Platon. Hein. Le philosophe chez Platon, c'est celui qui a accepté de se détourner du monde sensible, de se détourner des apparences, y compris de la manipulation des apparences, pour accéder à l'au-delà, au monde intelligible, à ce que Platon appelle aussi le ciel des idées, que le philosophe va contempler. D'où un symbole que Platon va reprendre et qui va traverser la philosophie, le symbole du philosophe qui a la tête en l'air, puisqu'il regarde le ciel des idées, par opposition au fait d'avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire d'être ancré dans des choses terrestres et concrètes. Et notamment par opposition au pouvoir, mais j'y reviendrai. Alors ce dualisme, on l'a expliqué, donc ce dualisme métaphysique qui va donner un des morceaux du titre de mon exposé, ce dualisme va déboucher sur une allégorie de Platon qui est très célèbre, qu'on enseigne à l'école, et qui est l'allégorie de la caverne. Et l'allégorie de la caverne, sur laquelle on va revenir, est très importante pour notre propos parce qu'elle est fondatrice d'une définition de la philosophie et va entraîner en conséquence une figure, notamment une figure du juge, figure des hommes publics et donc une figure du juge. Alors vous avez dans les documents que je vous ai donnés un schéma, je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai dessiné, même si on pourrait le croire. J'ai cherché sur Internet, il y avait plusieurs variations de ce schéma qui doit certainement être utilisé à l'école, justement, pour expliquer, pour essayer de représenter ce qu'est l'allégorie de la caverne. Et en réalité, donc, ce schéma va vous être utile, effectivement, pour visualiser ce que je vais vous expliquer. Mais si vous voulez, évidemment, présentation est schématique, et en réalité, la description du mythe de la caverne ou de l'allégorie de la caverne se trouve au livre 7 de la République. Vous avez quelques extraits, mais en tout cas, si vous voulez vous référer, c'est un livre qui est beaucoup plus complexe, évidemment, que ce que je vais expliquer là, qui est, encore une fois, résumé. Alors, quelle est cette allégorie ? Vous voyez, Platon va comparer le monde à une caverne. Bon, ça c'est connu. Et comme vous le voyez dans cette caverne, les hommes, qui sont les trois personnages à droite, en bas à droite de l'image, sont au fond de la caverne, enchaînés. Ils ont des chaînes aux pieds, aux mains, mais aussi aux coups, qui les empêchent de tourner la tête. D'accord ? Et donc ils ne peuvent voir que dans une seule direction. Et ces hommes représentent la multitude, les hommes ordinaires, la plupart des hommes, pour le dire autrement. Et donc, ces hommes, puisqu'ils sont enchaînés, tournent le dos à ce qui est derrière eux, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire non seulement ce qui est derrière eux dans la caverne, mais aussi ce qui est hors de la caverne et qu'ils ne peuvent pas voir de là où ils sont. Qu'est-ce qu'ils voient, eux ? Ils voient des ombres. Vous voyez les ombres ? Ils voient des ombres qui sont projetées sur un mur. Et qui sont, en fait, des ombres, des objets qui sont derrière eux, mais qu'ils ne voient pas. Vous aurez compris, d'après ce que je vous ai dit avant, que ces ombres sont, en fait, des apparences, hein, de la réalité qui est derrière eux. Et puis, surtout, plus important encore, à l'extérieur de la caverne, il y a le monde intelligible, le monde des idées, qui, lui, est le vrai monde, et que ces hommes, non seulement, ne voient pas, mais dont, en plus, ils ignorent l'existence. Ce qu'ils ne savent même pas, puisqu'ils sont tournés dos à l'ouverture de la caverne, ils ne savent même pas qu'il y a une extériorité à cette caverne. Et vous voyez notre ami le philosophe, qui, lui, est sorti de la caverne. Donc, vous voyez ici le philosophe, qui... Pas de soucis, ça va. Il y a de la place, là. Le philosophe, qui est sorti de la caverne, qui, lui... contemple donc les idées et qui réalise, qui prend conscience en contemplant tout à coup cette extériorité, que tant qu'il était enchaîné parmi les autres hommes, il se privait de la contemplation de ses idées. Il découvre ce qu'il n'avait pas vu, il découvre la lumière du soleil qui confère la sagesse. Et donc il a accès à une vérité, ou à la vérité, pour être plus précis, chez Platon, et donc nous dit Platon dans la République, ayant accès à cette nouvelle vérité, il ne peut plus retourner dans la caverne, il ne peut plus se contenter de l'obscurité de la caverne, c'est insupportable. Alors vous avez un premier extrait de texte que je vous ai communiqué, c'est le tout premier. Ces textes étaient déjà annotés, j'ai rajouté des annotations, donc c'est là où il y a l'astérisque. Je coupe un peu la phrase, je vous lis juste. « Ne t'étonne pas que ceux qui se sont élevés à ces hauteurs ne veuillent plus s'occuper des affaires humaines et que leur âme aspire sans cesse à demeurer là-haut. » Donc ici, Platon établit le fait que ceux qui sont sortis ne veulent plus s'occuper du monde sensible. Ça, c'est insupportable. Mais, dit Platon, il faut tout de même aider les autres hommes Hein, ceux qui sont restés dans la caverne, il faut les aider pour qu'ils ne soient pas gouvernés par des ignorants. Et donc, dans la République, Platon explique, je résume vraiment ici très fort, hein, parce que c'est compliqué, mais il explique en gros que les philosophes vont choisir parmi les hommes de la caverne les meilleurs, et ils vont les faire sortir, ils vont leur donner la connaissance, et puis leur rappeler leur devoir, c'est-à-dire retourner dans la caverne pour gouverner de façon éclairée. Il y a quand même cette idée chez Platon qui va être fondamentale, que la foule entière n'est pas en mesure de sortir de la caverne. Ce sont juste des élus qui vont sortir, qui ensuite vont revenir pour éclairer les hommes de la caverne. Alors, dans la République, Platon, vous le... Ah oui, tu ne veux pas donner des documents, je les ai là. Ça, c'est les miens. On n'en a plus ? Bon, j'en ai plus. Dans la République, Platon utilise cette allégorie pour dénoncer la vie de la cité. Hein, c'est la caverne, c'est la cité. Mais ce n'est pas la cité dans l'absolu, c'est la cité quand elle est gouvernée par des hommes qui ignorent la vérité. C'est la cité quand elle est gouvernée par des hommes qui ne sont mobilisés que par du pouvoir, ou par la soif de pouvoir, ou par les apparences du pouvoir. Ça, c'est une première chose que l'allégorie de la caverne permet à Platon de montrer. La deuxième chose que ça permet de montrer, c'est que ceux qui sortent de la caverne sont d'abord aveuglés, hein, par tout ce soleil tout à coup qui leur saute aux yeux, mais aussi, dans un second temps, ne veulent plus redescendre dans la cité. Autrement dit, la pratique de la philosophie, par définition, c'est sa définition ici, détourne de la cité et plus largement détourne du pouvoir. Hein, on voit dans le texte, dans un des textes de la République qu'on verra plus tard, on voit que Platon montre que ça détourne des honneurs de la cité, notamment du fait de vouloir être reconnu, d'avoir une place dans la cité, d'être un personnage public de la cité, puisqu'on a la philosophie et que c'est une compensation évidemment bien plus élevé que le pouvoir ou tous les honneurs. Platon installe donc ici la philosophie dans un autre monde, un monde qui est éloigné du monde corrompu des affaires humaines, et Platon montre que tout ce que nous voyons dans le monde ordinaire est en fait un ensemble de simulacres. Rien n'est vrai. Hein. Nous n'avons affaire qu'à des ombres. Et donc ce monde est nécessairement dominé par la duperie, la tromperie, la fausseté et tout ce qui permet de les obtenir. Et notamment, on y reviendra tout à l'heure, le discours, la manipulation oratoire, la rhétorique. On y reviendra. Et pourquoi les hommes sont-ils enchaînés dans la caverne, finalement ? Pourquoi les hommes ordinaires sont, selon Platon, si faciles à manipuler ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont, c'est ce que dit l'allégorie, prisonniers. Mais de quoi sont-ils prisonniers ? En réalité, qu'est-ce que figurent ces chaînes chez Platon ? Et en fait, Platon précise, ils sont prisonniers des apparences, évidemment, mais surtout, plus fondamentalement, prisonniers de leur corps. Ce qui enchaîne l'homme, c'est son corps. C'est le corps qui bouche la vue. C'est le corps qui empêche de voir, parce qu'on voit à travers lui, et donc on ne voit pas bien. Et donc, la philosophie, dans une certaine mesure, va être une forme, ce que lui reprochera Nietzsche d'ailleurs, une forme d'émancipation à l'égard du corps. Donc, si on résume ce que la métaphysique platonicienne nous permet de voir, on voit une opposition très claire. D'un côté, les hommes publics ou les hommes qui servent la chose publique, ces hommes-là sont de deux sortes. Il y a ceux qui dirigent, les gouvernants. Ceux-là sont habitués à parler en public, ils maîtrisent les apparences, ils savent convaincre les foules. Ça, c'est... Et puis, d'autre part, il y a ceux qui les suivent, c'est-à-dire ceux qui sont manipulés par les apparences, qui ne savent pas eux-mêmes les manipuler. C'est la foule. Mais tous, que ce soit les dirigeants ou ceux qui sont manipulés, tous sont des esclaves, selon Platon. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enchaînés, et les uns et les autres. Ils dépendent soit des apparences qu'on leur livre, soit des apparences qu'ils utilisent. Mais dans tous les cas, ils dépendent des apparences, ils dépendent du pouvoir, ils dépendent de leur position dans la cité, et ils dépendent de ce que Platon appelle, et sur lequel on reviendra, les apparats. c'est-à-dire la richesse, les vêtements, mais aussi l'enveloppe charnelle, la beauté, la séduction, etc. Donc ça, c'est une catégorie d'hommes. Et puis, par opposition à toute cette catégorie d'hommes, bien sûr, il y a les philosophes. Et les philosophes, eux, ils ont renoncé. Ils n'ont plus besoin des apparats, ni de la séduction. Ils ne sont plus sensibles aux apparats. C'est-à-dire que non seulement ils ne cherchent pas à manipuler, mais ils ne sont plus manipulables. Ce qui, évidemment, les libère par rapport aux esclaves. Platon, pour figurer ce philosophe capable de se consacrer aux idées sans prêter attention à la foule, va expliquer qu'en fait, de cette dissociation entre la foule ou la multitude et la philosophie résulte une image du philosophe ridicule. C'est-à-dire que la foule se moque du philosophe. Parce qu'il ne le la foule ne le comprend pas. Et elle va utiliser, Platon va faire référence à Thalès. Thalès qui, à force de marcher en regardant le ciel, tombe dans le puits. Et la foule se moque de Thalès, du grand Thalès qui, consacrant sa vie aux idées, tombe dans un puits. On voit ça aussi dans la suite du texte, de façon un peu moins figurative, dans la suite du texte que je vous ai donné, la suite du paragraphe de tout à l'heure, un peu plus bas. Alors, penses-tu qu'il soit étonnant qu'un homme qui passe des contemplations divines aux misérables choses humaines et mauvaise grâce et paraissent tout à fait ridicules. Donc voyez ici, il y a l'idée que le philosophe, quand il revient dans la caverne, paraît tout à fait ridicule. Ayant encore la vue troublée et n'étant pas suffisamment accoutumé aux ténèbres environnantes, il est obligé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs, sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de combattre les interprétations qu'en donnent ceux qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Donc vous voyez ici qu'on a une idée très claire. Il y a la justice en soi, qui est hors de la caverne, que le philosophe a vue. Et quand il revient dans la cité, au tribunal notamment, et on verra ça dans le procès de Socrate, et qu'il est confronté à ceux qui n'ont jamais vu la vraie justice, mais seulement des apparences de justice, il ne peut que perdre, parce que lui ne sait pas argumenter, ne sait pas se défendre, et il se fait, il paraît ridicule tant il est maladroit dans ces instances publiques. On reviendra sur cette métaphore parce qu'elle revient évidemment dans le procès de Socrate. Donc, il y a bien une idée. Le philosophe, c'est l'homme incompris, c'est l'homme inapte à la vie en société et surtout, alors évidemment, inapte aux tribunaux et aux assemblées. Par opposition, l'homme de la cité, c'est l'homme aveuglé, qui ne voit pas, c'est l'homme qui est habile, mais qui reste un esclave. Et donc, ce qui illustre cette conception de la philosophie par opposition à d'autres types de pratiques, et notamment les pratiques publiques, c'est évidemment la figure de Socrate, Socrate qui va payer de sa vie cette opposition entre les idées philosophiques et les opinions de la cité. Et donc, Platon va utiliser cette mort de Socrate de façon extrêmement... Il va d'abord la vivre, puisqu'il va être à son procès, il va le voir mourir, donc il va expérimenter d'abord, peut-être dans sa chair presque, ce qu'il estime être l'injustice par excellence, et puis surtout, il va ensuite en tirer une représentation de la philosophie. Alors, avant d'aborder cette deuxième partie de mon exposé, à savoir justement le procès de Socrate, ce qu'on lui reproche, comment il se défend, qu'est-ce que Platon en déduit, juste une petite remarque pour attirer votre attention sur un point. J'oriente le raisonnement ou le discours de Platon pour essayer de dessiner une certaine figure du juge, mais il faut souligner que la figure de Socrate que je pose à la figure du juge ici, que je dessine, un Socrate innocent, loin des affaires de la cité, qui a consacré sa vie à la contemplation des idées, etc., ça ne correspond d'abord pas à la réalité historique, et ça ne correspond pas non plus tout à fait à ce que dit Platon. Donc, il faut quand même le préciser. Donc, deux précisions. D'abord, Socrate était certes un philosophe qui contemplait les idées, mais c'était surtout un personnage très connu à Athènes, hein, qui était un personnage en vue, on dirait. Donc, c'était pas non plus quelqu'un qui vivait comme un ermite dans la campagne. Il avait beaucoup de disciples, il parlait à tout le monde. Il connaissait des hommes de pouvoir, il avait formé certains hommes de pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui va, à mon avis, l'amener à la mort, mais ça, on y revient dans un instant. Et donc, il avait une grande influence. Donc, on ne peut pas dire non plus que c'était un philosophe dénué de tout rapport avec les affaires humaines. Autrement dit, certes, il a contemplé le ciel des idées, mais il n'était pas totalement en retrait des affaires de la cité, même si, et ça c'est vrai, il n'a jamais exercé de magistrature particulière de son vivant. Première remarque. Deuxième remarque, dans différents textes de Platon, Socrate n'est pas seulement cette figure en retrait et contemplative, il est aussi celui qui propose de penser le meilleur gouvernement possible, le meilleur régime possible. Même dans le mythe de la caverne, il montre que les philosophes ont un rôle à jouer dans l'éducation des hommes de la cité. Donc il n'est pas non plus, malgré le dualisme qu'il propose entre ces deux mondes, Platon transgresse en quelque sorte, et je reviendrai là-dessus dans la conclusion, transgresse en quelque sorte cette scission entre le monde de la pensée et le monde de l'action, et de l'action publique en particulier. Alors, ce qui compte maintenant, c'est le procès de Socrate. Ce sera ma deuxième partie, puisque on vient de voir dans l'allégorie de la caverne que Platon présente la philosophie comme subversive, en quelque sorte, puisque le philosophe sait ce que la foule ignore. Et donc, si le philosophe commence à raconter ce que la foule ignore, par définition, il menace, il propose des vérités alternatives, il menace leur rétablir. Et pour Platon, l'expérience du procès de Socrate confirme cette dimension subversive de la philosophie, parce que Platon va interpréter le procès de Socrate comme comment la figure du philosophe est jugée et condamnée par des esclaves. En gros, c'est la représentation que Platon va en donner. Alors d'abord, quelques mots sur ce qu'a été réellement le procès de Socrate. On ne sait pas réellement très bien ce qu'a été le procès de Socrate, puisque l'essentiel de ce qu'on en sait, on le sait par ses disciples, deux disciples, Platon et Xénophon. Mais il y a quand même une convergence d'éléments. Le premier, c'est que ce procès a sans doute eu lieu en 399 avant Jésus-Christ, 398, 399, c'est pas trop, mais enfin, en gros, ça donne quand même une idée. Et surtout, il a eu lieu à un moment de fragilité de la démocratie athénienne, puisque Athènes avait, la démocratie avait connu une rupture, une période de tyrannie, après sa défaite contre Sparte, période de tyrannie dans laquelle Sparte avait imposé en fait un régime à Athènes, une sorte d'oligarchie, le régime de Trente, qui pendant peu de temps, mais qui a traumatisé la vie athénienne, puisqu'ils ont semé la terreur, ils ont organisé des procès, justement, des procès expéditifs, on dira. Ils ont tué un certain nombre de dirigeants, de représentants de la démocratie athénienne. Et un des leaders, ou le leader de ces oligarches, c'est Critias, et Critias est un ancien disciple de Socrate. Socrate lui-même n'est pas perçu à ce moment-là comme un vrai démocrate, dans la mesure où on estime qu'il va plaider pour une cité fondée sur le savoir, sur la connaissance, sur la philosophie, par opposition à une cité fondée sur l'opinion majoritaire. Et donc, on va considérer Socrate comme un traître. Et plus prosaïquement, évidemment, Socrate, dans ses discussions, dans ses dialogues avec d'autres penseurs, critique ouvertement les hommes forts du nouveau régime athénien. Et donc, Socrate, effectivement, va faire l'objet d'un procès qu'on qualifierait aujourd'hui d'un procès politique. Comment ce procès va se dérouler? Ce qu'il faut savoir, c'est que le système judiciaire d'Athènes à ce moment-là est démocratique. Autrement dit, ce n'est pas des juges, c'est pour ça que quand on parle de figure du juge, il faut aussi le préciser, parce que ça va être déterminant dans ce que Platon va dire. Ce ne sont pas des juges professionnels qui jugent à Athènes, ce sont des citoyens. Et ces citoyens, ils sont tirés au sort. Et quand ils sont tirés au sort, ils se réunissent en assemblée. Et donc, ils sont parfois jusqu'à 6. Pour Socrate, on estime, on ne sait pas, qu'ils étaient environ à 500. D'accord ? Donc, ils sont réunis en assemblée. Évidemment, ce point articuler la critique que Platon va adresser à la justice. Ce que critique Platon, c'est cette justice populaire. Cette justice populaire. De même, la procédure selon laquelle Socrate va être jugé est relativement démocratique, puisque chaque citoyen peut d'abord déposer une plainte, bon, jusque-là, mais ensuite conduire lui-même l'accusation, si cette plainte est retenue. Donc, les trois citoyens qui accusent Socrate, Mélitos, Anitos, Lycon, vont eux-mêmes mener l'accusation dans le procès contre Socrate. Quels sont les faits qui sont reprochés à Socrate? Corrompre la jeunesse, réfuter l'existence des dieux de la cité et chercher à introduire de nouvelles divinités. Et donc, à partir du moment où on admet qu'il y a un doute à ce sujet, Socrate va être convoqué à son propre procès qui va durer un jour. Socrate, lui, il assure sa défense tout seul. Et c'est évidemment pas un hasard, puisque les plus grands avocats de l'époque vont lui proposer ses services. Je vous rappelle que Socrate est une personne en vue à Athènes. Donc il est tout à fait louable de vouloir défendre Socrate. Et Socrate refuse. Il le refuse pour une raison très claire. Il a toujours condamné la rhétorique. Il a toujours condamné les avocats. Et il va dire « la rhétorique n'est nécessaire que quand on a quelque chose à se reprocher ». Et il va dire « moi, je suis innocent, il suffit que je dise la vérité pour que justice éclate ». Évidemment, lors du vote, Socrate est condamné à mort. Il est condamné à mort à une très courte majorité des voix. Donc, Platon montre bien que la cité athénienne est divisée sur cette question quand même, qu'il n'y a pas une espèce de marée d'opposition contre Socrate. Et cette mort va finir de conférer à Socrate un statut, ou à la figure de Socrate, un statut exemplaire de sagesse. Jusque dans la mort, Socrate va être fidèle à ses idées, puisqu'il ne veut pas d'avocat, et que même quand il se défend, il refuse de se défendre. C'est-à-dire qu'il ne fait que dire « je suis innocent ». C'est sa seule défense. Et où je dis la vérité, ce que vous dites n'est pas vrai. Ça va être sa défense. Et Platon va donc louer ce personnage qui résiste de façon très courageuse à la corruption et à la négociation, à la manipulation, évidemment, et qui meurt parce qu'il a défendu la vérité. Ça, c'est le sens de la mort de Socrate. Socrate meurt parce qu'il a défendu la vérité. Alors ici, on voit que le lien entre ce procès et la métaphysique qu'on expliquait tout à l'heure. C'est lié de deux façons différentes selon... Enfin, je vous l'explique. D'abord, c'est parce que Socrate est philosophe qu'il est condamné. Ça, c'est la première façon de le voir. C'est parce qu'il détient la vérité qu'il gêne. Et donc, c'est parce qu'il est philosophe qu'on va non seulement le poursuivre, mais le condamner à mort, l'exécuter. Parce qu'elle était philosophique, sa pensée invité à sortir de la caverne et donc remettait en cause les croyances établies de la cité. Quand elle devient populaire, cette pensée menace le pouvoir. Pourquoi ? Démonstration ici, parce que le pouvoir se nourrit des apparences trompeuses. Et donc, le pouvoir a besoin de maintenir ses apparences, le pouvoir a besoin de ses apparences pour se maintenir, et donc quiconque les met en cause met en cause le pouvoir et donc doit être éliminé. Ça, c'est la première interprétation qu'on lit chez Platon, mais il y en a une deuxième qui est la même, qui n'est pas du tout contradictoire, mais qui est l'autre pan de la chose, c'est de dire que, au fond, c'est pas seulement parce que Socrate est condamné, c'est aussi parce que Socrate est condamné que Platon produit cette métaphysique-là. C'est-à-dire que c'est l'expérience de cette condamnation qui va conduire Platon à théoriser une métaphysique qui va impliquer de dénoncer ou de rejeter les affaires humaines. Je m'explique. Le procès, et c'est le cœur du sujet, montre, pour Platon, que la justice des hommes est nécessairement du côté du pouvoir et non de la vérité. C'est ça que Platon tire comme conclusion de cette expérience du procès. Et il en conclut donc qu'il y a forcément une opposition précisément entre le pouvoir et la vérité, ou entre la cité et la philosophie, ou entre les apparences et la vraie réalité qui sera l'objet de la philosophie. Et donc, quel que soit, évidemment, les deux sont complémentaires, mais quel que soit l'angle sous lequel on regarde cette position métaphysique, il va de soi que le procès de Socrate joue donc, on le voit ici, un rôle essentiel dans l'établissement de cette métaphysique platonicienne. Dans le récit que fait Platon de ce procès, notamment, il fait le récit du procès dans plusieurs dialogues, mais notamment en particulier dans l'Apologie de Socrate, Platon va très clairement opposer le philosophe, donc Socrate, qui représente à lui tout seul la philosophie, qui n'a à la bouche que la vérité, et d'autre part, le juge et l'avocat, ou les juges et les avocats, qui eux vont exercer une sorte de pouvoir grâce à la manipulation des faits et des causes, grâce à la rhétorique. Et donc, très clairement, dans les textes, on va y arriver, je pense, vous avez, dans l'Apologie de Socrate, vous avez d'une part le philosophe qui consacre sa vie aux idées et qui, comme Platon le disait dans sa métaphysique, quand il arrive dans le tribunal, tout le monde se moque de lui, tout le monde rigole, Socrate arrive, dès qu'il ouvre la bouche, ça fait rire, parce qu'il a l'air ridicule aux yeux du peuple, il ne parle pas le même langage, il est décalé. Et d'ailleurs, Platon fait dire à Socrate, dans un autre dialogue, dans le banquet, Socrate est confronté au sophiste, et il dit « Je veux bien parler, si vous le désirez, comme je sais, et non pour rivaliser avec votre éloquence. Je ne tiens pas à faire rire à mes dépens. » Donc Platon montre que Socrate est tout à fait conscient de ne pas pouvoir réaliser avec l'art de la persuasion de ceux qui sont en face de lui parce que lui ne maîtrise pas cet art. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, Platon montre que, dans le procès de Socrate, il montre que le procès a ses propres codes, évidemment. On plaide, on argumente, on cherche à convaincre et, a fortiori, le procès athénien, rappelez-vous, 500 juges qui sont qui ne sont pas identifiables individuellement, qui sont une foule, donc le procès athénien qui, dit Platon, suppose une forme de séduction. On va essayer de séduire les citoyens qui sont appelés ici à juger. Et donc, le philosophe arrive en brandissant la vérité et il se trouve confronté à la rhétorique qui sert à dissimuler la vérité. Et donc, il y a cette confrontation permanente dans l'apologie de Socrate et dans le procès de Socrate. Je vous donne un autre exemple. C'est pas dans l'apologie de Socrate, c'est dans un autre dialogue que vous avez aussi, qui est le thé et tête. Parce qu'évidemment, la référence au procès de Socrate, donc le procès de Socrate est décrit dans l'apologie de Socrate, mais il est présent, il y est fait référence dans divers dialogues de Platon, puisque par définition, il est paradigmatique de ce moment de fondation de la philosophie. Donc dans le thé et tête, vous avez un dialogue ici entre Théodore et Socrate, et l'avant-dernière citation de Socrate, il dit ceci: « Il semble bien que ceux qui ont dès leur jeunesse roulé dans les tribunaux et les assemblées du même genre, comparés à ceux qui ont été nourris dans la philosophie et dans les études de cette nature, sont comme des esclaves en face d'hommes libres. » Autrement dit, vous avez ici Platon qui fait dire à Socrate que ceux qui sont habitués aux tribunaux sont des esclaves, là où les philosophes sont des hommes libres. Et vous voyez que on va à la fois constater que le philosophe est inapte à plaider, et en même temps, immédiatement déprécier les métiers juridiques. Si vous voulez, la définition de la philosophie comme contemplation est irrémédiablement liée à une dépréciation des métiers juridiques et en particulier des avocats et des juges. Et c'est ce que je vous disais au début, il me semble que cette critique, évidemment, n'est pas accidentelle mais structurelle. Dans le Gorgias, un autre dialogue de Platon, Socrate dit un peu la même chose. L'orateur n'est pas l'homme qui fait connaître aux tribunaux. Je ne sais pas si vous l'avez. Non, vous ne l'avez pas celui-là. Je n'avais pas le Gorgias sous la main. L'orateur n'est pas l'homme qui fait connaître aux tribunaux ou à toute autre assemblée ce qui est juste et ce qui est injuste. En revanche, l'orateur, c'est l'homme qui fait croire que le juste, c'est ceci, et l'injuste, c'est cela. Rien de plus. Vous voyez ici que, très clairement, Platon fait dire à Socrate qu'il y a dans l'art oratoire une dimension falsificatrice et en tout cas que l'art oratoire ne permet certainement pas d'accéder à ce qui est vraiment juste ou injuste. Alors, je vous le disais tout à l'heure, dans tout son procès, Socrate va plaider en disant, en arguant de sa vérité. Ce n'est pas vrai que je renie les dieux de la cité, ce n'est pas vrai que je corromps la jeunesse, etc. Vous ne dites rien de vrai, vous ne dites rien de juste. Je vous en donne un exemple, ça c'est dans le premier texte. La première page, c'est la première ligne de l'apologie de Socrate. C'est la toute première page du procès, et Socrate, le procès est fini, hein. Donc Socrate raconte son procès, et il dit « Pour moi, en les écoutant », donc il parle de ses accusateurs, « en les écoutant, j'ai presque oublié qui je suis, tant leur discours était persuasif. Et cependant, je puis l'assurer, ils n'ont pas dit un seul mot de vrai. » Donc ça va être sa ligne de défense du début à la fin. C'est très persuasif, mais c'est faux. Et donc, quand on lit ça, on se dit, mais au fond, est-ce que Platon est naïf? Ou est-ce que Socrate est naïf? Évidemment, on a quand même de bonnes raisons de penser que ni Socrate ni Platon sont naïfs à ce point-là. Donc, cette naïveté affichée, ou cette pureté affichée, elle est intentionnelle, elle dit quelque chose. Et ce qu'elle dit, c'est que précisément la philosophie, hein, c'est refuser d'entrer dans ce jeu de la persuasion. Et que donc, même si on risque la mort, on s'y refuse. On n'entre pas. Dans la suite de l'extrait que je viens de lire, c'est la deuxième, le deuxième astérix de la page. Sachez-le, donc il a 70 ans, Socrate, quand il est jugé. Il avait déjà eu le temps de sévir. Sachez-le, c'est aujourd'hui la première fois que je comparais devant un tribunal, et j'ai plus de 70 ans. Aussi, je suis véritablement étranger au langage qu'on parle ici, puisque c'est la première fois qu'il entre dans un tribunal. Et un peu plus bas, mais il refuse d'avoir un avocat, hein, je vous le rappelle. Donc il sait qu'il est étranger au langage, mais il refuse d'être défendu. Et un peu plus bas, il dit « Je vous demande aujourd'hui de ne pas prendre garde à ma façon de parler ». Qui pourra être plus ou moins bonne, et de ne considérer qu'une chose et d'y prêter toute votre attention, c'est si mes allégations sont justes ou non, car c'est en cela que consiste le mérite propre du juge, celui de l'orateur est de dire la vérité. Vous voyez ici, on voit se dessiner petit à petit une certaine figure du juge, et en tout cas une certaine représentation de la justice. Le mérite du juge, c'est d'estimer si ce que dit quelqu'un est juste ou non, bon, et le mérite de l'orateur, enfin de celui qui parle, c'est de dire la vérité. On voit ici, évidemment, parce que c'est la preuve par l'absurde, que ni les orateurs ne disent la vérité, ni les juges ne font attention à savoir si les propos de Socrate sont justes ou pas justes. En effet, nous dit Platon, Socrate est condamné. Il dit ça, c'est sa défense, et il est condamné. Donc c'est une défense qui ne peut qu'échouer. Pour Platon, c'est l'ignorance des hommes, c'est leur goût pour les apparences qui vont les mener à faire des procès, comme le procès de Socrate, qui ne sont que, pour Platon, des parodies de justice. Ça n'est pas la vraie justice. Autrement dit, l'institution justice, pour Platon, elle a l'apparence de la justice, mais elle n'est pas la justice. Elle n'est qu'une copie fausse, manipulée, trafiquée. En réalité, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'elle a condamné un Socrate innocent. Et jamais, dans une justice juste, on ne pourrait condamner un Socrate innocent. Vous voyez ici, on va y arriver dans la troisième partie, c'est que la justice, dans ce modèle, est une justice par définition infaillible, qui ne peut pas condamner un innocent. Et va dérouler, ou découler plutôt, de ce présupposé, évidemment, une certaine figure du juge, et on le verra tout à l'heure, qui est à la fois idéale et impossible. Donc, elle a condamné un Socrate innocent. Et donc, dit Platon, enfin, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qu'on peut dire qu'il dit, la condamnation de Socrate ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un divorce définitif entre la justice comme idéal, comme idée, comme aspiration, et la pratique concrète du droit. En réalité, la pratique concrète du droit n'a rien à voir avec la justice. Et donc, le récit, la façon dont Platon va raconter le procès de Socrate, va permettre à Platon de mettre en lumière, de façon assez tragique, puisqu'on sait à l'avance qu'il va mourir, de façon assez tragique, l'incapacité du jugement humain, l'incapacité de la justice de la cité, à rendre la vraie justice. Le procès de Socrate va donc faire apparaître une sorte de figure négative du juge, le juge arbitraire, le juge, même si c'est les juges hein, ici, mais c'est une figure du juge quand même, le juge arbitraire, le juge incapable de rendre justice, au point de faire dire à Socrate, dans la fin de l'apologie, on va y arriver, Socrate s'adresse à ceux qui l'ont acquitté. Vous avez ça, c'est le dernier. Je sais pas. Oui, c'est le dernier extrait, c'est la troisième. Il s'adresse à ceux qui l'ont acquitté, c'est-à-dire un peu moins de la moitié des juges, et leur dit « Vous seuls méritez le nom de juge ». Donc il dit l'extrait. Donc vous qui m'avez acquitté, j'aimerais causer avec vous de ce qui vient de se passer. Et puis je saute une partie et dit en effet, juge, car vous méritez vous ce titre de juge. Donc vous voyez ici que il y a une figure négative du juge, c'est-à-dire ceux qui l'ont condamné, la justice institutionnelle, mais qui présuppose aussi une figure positive du juge, un idéal de justice par rapport auquel, évidemment, Platon va dénoncer la justice de la cité. Puisque, précisément, c'est au nom de cet idéal que Socrate va s'adresser à ceux qui l'ont acquitté en disant « Mais vous, vous êtes les vrais juges, ceux qui êtes les vrais juges. » Donc, la figure qui incarnait cette figure positive. Et donc, je vais consacrer la troisième et dernière partie de mon exposé à cette figure, cette fois positive, du juge. On a vu ici la figure négative incarnée ou réalisée dans le procès de Socrate. Et on va terminer par une figure positive qui est en fait le contrepoint absolu ou total de cette figure négative. Donc, le procès, tel qu'il est interprété par Socrate, par Platon, pardon, montre que la justice de la caverne, c'est une justice arbitraire. Pour dire vraiment les choses de façon très très résumée. La vraie justice, elle est donc en dehors de la caverne, elle relève de l'idée. Je le disais tout à l'heure, le présupposé, c'est que cette justice est infaillible. C'est-à-dire que c'est une justice qui ne peut pas condamner des innocents, ni bien entendu acquitter des coupables. Et donc cette justice, c'est une justice, dans la tête de Platon, hein, absolue, parfaite évidemment, et pour énoncer la figure du juge qui incarne cette justice infaillible et parfaite, Platon va proposer un mythe. Comme souvent, c'est-à-dire, il va montrer que, à travers une histoire, presque littéraire, il va évoquer les conditions d'une vraie justice. Quelles sont les conditions pour que cette justice, justement, ne soit plus corrompue et arbitraire, comment doit-elle s'effectuer? Et pourquoi c'est un mythe? On va très vite le comprendre, parce que précisément pour que cette justice ne soit plus arbitraire, il faut que les juges soient délivrés des apparences. Et donc, pour se délivrer des apparences, ça va présupposer toute une série de choses qui, vous le verrez, sont relativement complexes. Alors, je vais vous lire pratiquement l'entièreté. Enfin, c'est deux paragraphes, hein, c'est pas non plus. Mais c'est une longue citation, mais vous avez le texte, parce que ce mythe, d'abord, c'est un très beau texte, c'est dans le Gorgias. Donc, comme j'avais pas le Gorgias, vous avez un extrait d'un recueil, bref, que j'ai fait. Donc, vous avez le. Et Socrate, c'est Vertu du juge, c'est la première. Platon. Ouais, c'est dans Vertu du juge. Et donc vous avez là un dialogue où Socrate s'adresse à Calliclès et lui rapporte un mythe, mais en disant, bon en fait, je vais te rapporter les propos de Zeus, moi on m'a dit que c'était pas vrai, on m'a dit que c'était un mythe, mais ça m'a l'air tellement vrai que je crois que c'est vrai. Alors voilà ce que dit Socrate. Écoute donc, comme on dit, une belle histoire. Toi, tu estimeras, j'en suis convaincu, que c'est une fable. Mais selon moi, c'est une histoire. Et c'est dans la pensée que sont des vérités que je te dirai, ce que je vais te dire. Bon, je vous passe ce détail. Alors, voici l'histoire. Au témoignage d'Homère, tu le sais, quand Zeus, Poséidon et Pluton eurent de leur père reçu en héritage le pouvoir, ils se le partagèrent. Hors du temps de Cronos, il y avait une loi concernant les hommes, qui était celle-ci, toujours en vigueur chez les dieux, même à présent encore. Oui, le français est difficile. Hein ? Que celui des hommes qui a passé toute sa vie dans la justice et la piété s'en aille, quand il a fini ses jours, habiter les îles des bienheureux, dans un état complet de béatitude et d'exemption de tout mot. Donc en gros, pour le dire, celui qui a vécu en juste au moment de sa mort va dans une sorte de paradis. Hein. Et au contraire, tandis que celui qui l'a passé dans l'injustice et l'impiété s'en va à cette prison où se paient les peines encourues, que l'on appelle Tartare. Vous voyez ici, on pense la vie après la mort en termes justement de justice. On va juger ceux qui meurent et on va envoyer les justes dans une... On va les récompenser et on va punir... On va punir de prison les injustes. Voilà le problème. Je continue. Au temps de Cronos, et encore du temps que Zeus était depuis peu en possession du pouvoir, bref, le problème, c'était des vivants qui étaient juges de vivants, rendant leur sentence le jour même où devaient trépasser ces derniers. Donc juste avant la mort, on jugeait les individus. Et on disait où ils devaient aller. Mais leur jugement était de mauvais jugement. Et on va voir tout de suite pourquoi c'était de mauvais jugement. Aussi, Pluton, tout comme les administrateurs des îles des Bienheureux, venait-il rapporter à Zeus que chez eux, d'un côté aussi bien que de l'autre, il voyait aller et venir des hommes qui ne l'avaient pas mérité. Autrement dit, on a récompensé des hommes qui ne l'ont pas mérité. Donc les jugements se sont trompés. Voyez ici. Hein. Zeus tint alors ce langage. C'est presque la fontaine. Eh bien, dit-il, je vais mettre un terme à cet état de choses. À présent, en effet, les sentences des juges sont de mauvaises sentences. C'est que, ajouta-t-il, les gens que l'on juge sont jugés tout habillés, puisqu'ils sont jugés vivants. Or, dit-il, il y en a beaucoup qui, ayant une âme perverse, se la sont revêtus d'un beau corps, d'une illustre origine, de richesse. Et le jour venu du jugement, il leur arrive quantité de témoins qui témoignent que leur vie a été juste. Autrement dit, vous voyez ici comment on cache la vérité. Hein. Aussi, les juges se laissent-ils éblouir par tout cela, attendu que, en même temps, c'est tout habillé, eux également, qu'ils prononcent leur sentence. Ayant placé en avant de l'âme qui est la leur, un écran. Donc vous voyez ici que le problème, c'est que les juges ont, entre leur âme et l'âme de ceux qu'ils doivent juger, il y a un écran qui les empêche de voir. Et cet écran, c'est quoi ? Un écran qui est fait d'yeux, d'oreilles et du corps dans son ensemble. Tout cela vient donc prendre place par devant eux, aussi bien ce dont ils sont eux-mêmes revêtus que ce dont sont revêtus ceux qui sont jugés. Vous voyez ici déjà un premier temps de ce mythe, c'est que Zeus constate que le problème de la justice qui fait que les jugements sont mauvais, c'est qu'on juge des vivants et qu'étant vivants, ils sont habillés et qu'étant habillés, ils ont des corps et que ces corps, ces vêtements et ces apparats, comme on disait tout à l'heure, cachent, empêchent de voir, éblouissent le juge. Donc cachent aussi bien pour ce qui est de l'âme qui doit être jugée que pour l'âme qui doit juger. Et un peu plus bas, quelques lignes plus bas, vous avez une des solutions que prend Zeus. Il faut qu'on les juge complètement mis à nu de tout cela. C'est une fois morts, en effet, qu'ils devront être jugés. Et le juge devra lui aussi avoir été mis à nu et être un mort, qui, avec sa seule âme, est spectateur d'une âme pareillement seule, celle de chacun, à l'instant où il vient de mourir. Un mort qui est isolé de toute sa parenté et qui a laissé sur la terre tout ce dont il se paraît. Condition indispensable de la justice de sa décision. Je vous passe la fin du récit. Donc vous voyez ici un mythe qui est explicitement, très clairement, une figure du juge. Mais alors, c'est une figure du juge, une figure du juge idéal selon Platon. Alors, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce juge idéal? Bon, d'abord, il est dépouillé des apparences, mais donc pour se dépouiller des apparences, il faut, d'une part, enlever les vêtements, et puis il faudrait être nu, mais s'il faut être nu, chez Platon, ça signifie également sans corps. Parce que le corps lui-même, vous rappelez les chaînes, c'est l'enveloppe charnelle d'abord. Or, sans corps, pourquoi? Parce que le bon juge, dit Platon, juge avec l'esprit ou avec son âme, et en tout cas, sans yeux et sans oreilles. Puisque rappelez-vous, hein, c'est ce corps, c'est les yeux et les oreilles qui empêchent de juger. Donc vous avez ici une figure du juge. Oui, c'est la justice, les yeux bandés de la justice, en quelque sorte. Hein. Et donc, le bon juge, c'est le juge qui juge sans yeux et sans oreilles. Pas seulement, c'est aussi le juge qui est mort. Parce qu'en fait, en réalité, seul un mort peut juger en pur esprit. Parce qu'en réalité, tant qu'on est vivant, on a un corps. Et donc, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles Platon, pour exposer cette figure du juge, recours à un mythe, puisqu'en réalité, ça n'est pas possible. C'est une histoire, mais c'est une histoire qui est une fable, parce qu'en réalité, on l'a vu dans le procès de Socrate, les juges, ils ne sont pas comme ça. Les juges ont bien un corps, ils sont bien éblouis par toute une série de témoignages. Et donc, vous voyez ici que la figure positive du juge qui est héritée de ce mythe qui est dans le Gorgias va nous placer devant un choix ou une alternative. On a d'un côté la figure du juge, une figure négative, c'est la justice humaine, c'est la justice qui est rendue par les êtres vivants, des êtres de chair, qui sont aveuglés par les apparences, des juges qui ne sont juges qu'en apparence d'ailleurs, hein, qui ne sont justes qu'en apparence, c'est les juges de Socrate, ce sont les juges de Socrate. Et puis de l'autre côté, on a la figure positive, la justice idéale. C'est une justice désincarnée, puisqu'il n'y a plus de corps. C'est une justice qui est totalement impartiale, et donc infaillible parce qu'elle est impartiale, elle ne se laisse plus influencer, mais c'est une justice qui est aussi impossible. Et donc Platon nous met devant une alternative, ou bien la justice corrompue, ou bien la justice impossible. Alors, j'attire votre attention sur quelque chose, c'est que ce juge mort, qui est présenté ici, qui nous fait beaucoup rire, parce que c'est vrai qu'il y a un côté, macabre et très fantasmatique, donc ça nous fait un peu rire, mais il n'est pas plus impossible que le juge machine, c'est le même. Hein, le juge mort et le juge machine sont, dans les deux cas, des êtres inanimés. Alors, chez Platon, cette espèce d'alternative justice arbitraire ou justice impossible, elle n'est pas là par hasard. C'est une condamnation de la justice qui permet d'instituer la philosophie, parce que la philosophie, c'est précisément ce qui échappe à cette alternative-là. Quand Platon pense ici la justice idéale comme une justice désincarnée, c'est évidemment de manière figurée pour réaffirmer la supériorité de la philosophie, pour faire de la sagesse philosophique, comment dire, la béquille, en quelque sorte, de la justice arbitraire des hommes. C'est la seule façon qu'on peut espérer résoudre cette alternative, c'est d'encadrer. C'est au fond d'aider la justice humaine à être un peu moins arbitraire. Moi, mon hypothèse, et c'est là que là je vous le soumets vraiment, c'est que cette alternative entre justice humaine et arbitraire d'une part et justice idéale et impossible d'autre part, elle n'a pas été dépassée. Que c'est une alternative qui revient, donc elle est fondatrice chez Platon, elle revient sans cesse dans l'histoire de la philosophie et elle revient sans cesse aujourd'hui encore dans certains débats beaucoup plus concrets, beaucoup plus pratiques sur la figure du juge. Je vous donne quelques exemples quand même, mais pas contemporains, ça je vous les laisserai les trouver. Le christianisme par exemple. Bon, on voit bien que dans toute cette histoire de paradis, de cavernes, etc., on voit bien évidemment tout ce qui va pouvoir donner prise et nourrir la philosophie chrétienne. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que le christianisme va reprendre cette distinction entre justice humaine et arbitraire et justice impossible, idéale et impossible, D'abord parce que pour le christianisme, il n'y a que Dieu qui est un vrai juge, donc il y a toujours cette espèce de dissociation entre les jugements humains qui sont, ma foi, ce qu'on peut bricoler, puis la vraie justice qui est celle de Dieu, et finalement, on est jugé devant Dieu. On est comptable de nos propres jugements devant Dieu, c'est lui qui va nous dire si on a bien jugé ou si on a mal jugé. Hein. Vous connaissez la célèbre « Comme vous jugez, vous serez jugé » de l'évangile sur Matthieu. Mais surtout, le christianisme va réinterpréter cette distinction entre la justice intérieure et la justice extérieure. Le christianisme va dire la vraie justice, elle est intérieure. C'est la justice que l'on ressent. Et la fausse justice, c'est la justice extérieure, la justice pharisianique. Je vous cite Matthieu dans l'Évangile. « À l'extérieur et pour les hommes, vous paraissez juste. À l'intérieur, vous êtes plein de comédie et d'iniquité. » Donc on voit bien ici se redessiner ce que Platon déjà lui-même désigne. Autre incarnation de cette espèce d'opposition, la professionnalisation de la justice. Hein ? Les juges de Socrate, ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens, et donc, pour Platon, et pour bien d'autres personnes encore, des ignorants. Et donc, ils rendent justice sur base de cette ignorance, et donc sur base, pour Platon, hein, sur base d'opinions, de croyances. Et ces citoyens, Platon les représente comme une espèce de foule qui est manipulable par la rhétorique et par les effets de manche des avocats, etc. Il faut quand même se rendre compte qu'évidemment, ce débat est toujours d'actualité. Hein, dans la question du jury populaire notamment, c'est les mêmes arguments, c'est la même chose. Bon. Et donc déjà, chez Platon, on retrouve cette idée. Alors Platon ne parle pas des juges professionnels, mais on voit bien l'idée qu'il y a derrière. C'est qu'un juge professionnel, enfin, avec de tels juges, c'est-à-dire avec des juges ignorants et manipulables, la justice, elle est politique, d'une part, et elle est partiale. Mais avec un juge professionnel, on peut espérer, hein, ça c'est l'argument, d'avoir un juge qui n'a plus de désir et de volonté propre. Parce que ce juge va fonder son autorité sur un certain savoir. Et justement, c'est là qu'on voit l'influence de la représentation platonicienne. Alors évidemment, ce n'est pas le ciel des idées, ce n'est pas la sortie de la caverne, mais quand même, parfois, bon, je pense à certaines personnes, on a cette représentation de la maîtrise, notamment du droit, comme une certaine maîtrise d'un ciel intelligible, des idées, qui donnerait une supériorité, d'ailleurs, sur le commun des mortels. Alors donc, cette justice, ce juge professionnel pourrait, lui, saurait. Hein, il aurait le savoir pour lui, et donc il pourrait éclairer les autres qui sont restés dans la caverne. Il ne serait plus dans la caverne parce que c'est dans son intérêt. Il serait plus arbitraire comme le citoyen qui est à la fois juge et parti, qui est un membre de la cité. Il serait, lui, en retrait de cette cité. Il serait dans la caverne parce qu'il incarnerait une sorte de fonction impersonnelle, justement. Dernière illustration que j'évoquerai de manière un peu hussarde. Une illustration, comment dire, ce mythe du juge désincarné, qu'on vient de voir chez Platon de façon quand même assez massive, hein, qui est difficile de ne pas la saisir. On la retrouve chez différents auteurs ou différents penseurs de la justice et du juge, et notamment chez Montesquieu. Alors, je précise, c'est une certaine lecture de Montesquieu, c'est une lecture superficielle de Montesquieu. On a prévu, si vous avez vu le programme de notre séminaire, une séance spécialement réservée à Montesquieu, précisément pour dépasser cette lecture un peu simpliste. Mais peu importe ici, c'est en tout cas la lecture souvent officielle de Montesquieu. En tout cas, c'est l'usage commun que l'on fait de Montesquieu. Et dans l'usage commun que l'on fait de Montesquieu, on retrouve le juge désincarné, évidemment, de Platon. Hein ? Montesquieu, ne dit-il pas, dans cette célèbre phrase que tout le monde nous sort toujours dans tous les sens, mais qui existe tout de même, « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi », donc ça c'est la phrase la plus célèbre, mais la suite, « Des êtres inanimés qui ne peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Donc vous voyez ici, des êtres inanimés. Alors bien sûr, c'est pas quand il dit « les juges de la nation ne sont », c'est pas une description. Hein, mais c'est le modèle, c'est ce vers quoi doit tendre justement le juge moderne. C'est de ressembler le plus possible à cet être inanimé. Et donc, dans cette conception du juge, le juge n'a pas à être incarné dans une personne en chair et en os. Alors, bien sûr, Montesquieu sait que le juge est en chair et en os, mais ce n'est pas cet être de chair et d'os qui nous intéresse en tant que juge, c'est justement la fonction dépersonnalisée ou désincarnée. De même, à plusieurs reprises, Montesquieu veut rendre le pouvoir du juge invisible. Hein, je rappelle cette autre phrase célèbre de Montesquieu, « La puissance de juger, si terrible parmi les hommes, devient pour ainsi dire invisible et nulle. » Donc il y a aussi ici une réminiscence, à mon avis, de la métaphysique platonicienne, parce que ce qui est présupposé, c'est que ce qui est juste ne relève pas du monde des apparences. Et que donc, pour atteindre cette justice, on doit, dans une certaine mesure, effacer le juge de son appartenance à cette visibilité sensible et concrète. Et pour réaliser cette figure idéale, cette deuxième figure qu'on trouve chez Platon et qui est donc une figure à la fois idéale et impossible, il me semble que la tradition juridique continentale a essayé d'appliquer une solution qui est déjà présente chez Platon. Cette solution, c'est la loi, évidemment. Hein ? Rappelez-vous Montesquieu, le juge, la décision du juge doit être soumise au texte précis de la loi. Or, déjà chez Platon, la loi, c'est précisément ce qui contraint le juge arbitraire, c'est la façon dont on le limite. Et Platon, d'ailleurs, était convaincu que la fonction des juges n'a de sens que dans des constitutions imparfaites. C'est-à-dire que quand on arrivera, c'est ça le fantasme platonicien, mais que je pense qui a perduré et qui a traversé les siècles, c'est cette idée qu'à force de perfectibilité, d'amélioration d'une constitution, on va d'une part avoir des lois si parfaites qu'on n'aura plus besoin de juges. Hein, donc, si vous voulez, il me semble que l'alternative entre juge réel et arbitraire et juge idéal et impossible, la seule alternative, ce à quoi cette alternative nous conduit, c'est à fantasmer, enfin nous conduit la pensée occidentale, c'est à fantasmer de se débarrasser de l'interprétation des juges, de la faillibilité en réalité que ça implique dans les décisions. Comme le texte avance, je me dépêche. Moi, j'ai presque fini, remarque, ça va. Et donc, pour conclure, je reconnais que j'ai tracé ici, un peu à coup de hache en quelque sorte, une figure du juge qui, parce que je voulais montrer qu'elle a été essentielle à la philosophie et qu'elle a tellement marqué la philosophie qu'elle a traversé différentes représentations philosophiques et politiques, voire même qu'elle a peut-être influencé une grande part de notre pensée politique, de notre pensée de la vie en société. Alors j'ai évidemment conscience que ce n'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule figure du juge que la philosophie a proposée. Il y a dès l'Antiquité, chez Aristote notamment, une autre proposition, une contre-proposition, qui a elle aussi traversé les siècles et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les débats. Peut-être qu'on fera une séance plus tard sur Aristote. Et puis, j'ai conscience aussi qu'il y a d'autres interprétations possibles du procès de Socrate, évidemment. Là, j'en ai donné une. Bon, mais on a aussi fait du procès de Socrate un exemple de désobéissance civile ou d'héroïsme, etc. Ça ne me semble pas contradictoire, en réalité, avec ce que j'ai proposé, mais ce que j'ai proposé était orienté, évidemment, par mon propos. Je me rends compte aussi qu'entre Platon et les modernes, j'ai fait un saut en évacuant toute une histoire de la pensée juridique, évidemment, qui, elle aussi, a contribué à l'évolution des représentations du juge, évidemment. Je ne veux pas la pensée romaine, la dispute scolastique, enfin, il y a une multitude de moments de la pensée juridique qui ont marqué et sur lesquels il faudra revenir. D'autres termes, je ne vois pas, il n'y a aucune fidélité historique dans ce que j'ai proposé. Ce qui me semblait intéressant pour une des premières séances de ce séminaire consacré aux différentes figures du juge, c'est d'essayer de montrer que l'institution de la philosophie, dont on peut admettre qu'elle connaît avec Platon un de ses moments principaux, eh bien que cette institution de la philosophie, elle est indissociable d'une certaine représentation du juge, une représentation qui explique, une représentation problématique, hein, qui nous conduit à cette espèce d'alternative et qui explique, selon moi, en partie la difficulté qu'a eue depuis Platon la philosophie à penser la justice. Et en réalité, on l'a vu, il n'y a pas une, mais deux figures du juge chez Platon, l'une idéale, l'autre arbitraire. Et cette dualité, on l'a vu aussi, permet à Platon de faire de la philosophie un lieu de refuge, hein, un lieu de secours, une sorte d'échappatoire par rapport aux affaires corrompues de la cité. Mais elle conduit aussi Platon à ancrer cette impossibilité de penser une juste justice sur Terre. Hein. C'est, avec Platon, l'impossibilité de penser ça. C'est la critique que feront à Platon différents auteurs contemporains, évidemment. J'en citerai deux pour terminer. Le premier, c'est Perelman, puisque précisément, Perelman va reprocher à la tradition philosophique, et à Platon en particulier, cette dichotomie entre justice idéale et justice concrète. Perelman va s'appuyer sur sa critique de Platon pour restaurer la rhétorique, justement, que Platon avait tenté d'évacuer, et pour refonder une sorte de philosophie du droit. Je vous donne un exemple. Perelman affirme, par exemple, que bien rares sont les philosophies qui font quelque place au processus de l'élaboration et de l'application du droit, trop préoccupées qu'elles sont par la construction de systèmes idéaux qui, par définition, rendraient les techniques juridiques superflues. Donc Perelman va précisément prendre le contre-pied de cette vision philosophique pour essayer de refonder une sorte de philosophie du droit contemporaine. Et puis, deuxième exemple que je donnerai, sur lequel je terminerai le plus vite possible, c'est Hannah Arendt. Hannah Arendt a beaucoup écrit sur le mépris de Platon à l'égard des affaires humaines. On a vu le mépris quand même, hein. On a vu la façon, rappelez-vous les extraits de La République qu'on a lus. Une fois qu'on est monté en haut, on est dégoûté, on n'a plus envie de redescendre en bas, quoi. Et Arendt, elle a beaucoup écrit là-dessus, et elle a souligné que ce mépris, quand il est associé à une autre partie de la pensée de Platon, c'est-à-dire à la volonté de faire régner un roi éclairé, un roi philosophe, eh bien, ce mépris illustre une forme de contradiction de la pensée, enfin, une contradiction apparente, qui n'est pas en fait une contradiction, mais une forme de contradiction de la pensée platonicienne, et je termine là-dessus. Quelle est cette contradiction? D'un côté, Platon méprise ce qu'il appelle les affaires humaines, les affaires de la cité. Dans La République, le dernier extrait que vous avez, mais vous avez pas, il y a une phrase, hein, je vous l'ai dit, mais vous l'avez, je vous cite Socrate, « Connais-tu une autre condition que celle du vrai philosophe pour inspirer le mépris des charges publiques ?» Donc, vous voyez ici que Socrate dit « À partir du moment où on est un vrai philosophe, on ne peut que ressentir un mépris pour les charges publiques. » Donc, d'un côté, dit Arendt, il y a ce mépris très explicite. D'un autre côté, dit Arendt, Platon tire des conclusions de ce mépris, précisément, pas seulement pour la philosophie, mais précisément aussi pour les affaires humaines elles-mêmes, puisque Platon en tire des conclusions sur la meilleure manière de gouverner. Platon veut, dit Arendt, alors là aussi Arendt, elle tire un peu Platon là où ça l'intéresse, mais peu importe, ça nous convient ici, Platon veut imposer le règne de la vérité, avec un grand V. Et donc, il est vrai que quand on prend la citation que je viens de vous donner, hein, le mépris qu'inspire la condition, enfin qu'inspire la charge publique quand on est un vrai philosophe, deux paragraphes plus loin, vous regarderez le texte, vous l'avez, deux paragraphes plus loin, qu'est-ce que dit Platon? Je cite. Par conséquent, donc en conclusion de ce que je viens de dire, à qui imposeras-tu la garde de la cité, sinon à ceux qui sont le plus instruits des moyens de bien gouverner un État? et qui ont d'autres honneurs et une condition préférable à celle de l'homme public. Et donc précisément, Platon va nous dire qu'il va falloir confier la garde de la cité à ceux qui méprisent les charges publiques. C'est-à-dire à ceux qui n'ont pas besoin, qui ne recherchent pas l'honneur à travers les charges publiques. Or, les seuls qui peuvent exercer des charges publiques sans le faire pour l'honneur, par ambition, par amour du pouvoir, les seuls, ce sont les philosophes. Et donc, il y a cette espèce de contradiction qu'Arène souligne entre, d'un côté, un mépris, d'un autre côté, une forme de leçon ou de participation. Et Arendt dira, au fond, cette contradiction n'est qu'apparente, parce que, en fait, cette contradiction montre la nature tyrannique de la philosophie. Et donc, Arendt insistera sur l'idée que la philosophie, en fait, telle qu'elle est définie ici chez Platon, n'est pas seulement subversive, comme on l'a vu, mais elle est aussi despotique, ou en tout cas tendanciellement despotique. Alors, je terminerai, pour terminer parce qu'il faut, justement, par une citation d'Anna Arendt à ce sujet, dans un recueil de textes qui s'appelle « Vie politique », dans lequel elle évoque certains grands penseurs du point de vue de la politique. Et elle parle ici de deux grands philosophes, deux grands penseurs qu'elle cite, et donc je vous laisse découvrir, je la cite. Nous ne pouvons guère nous empêcher de trouver frappant et peut-être scandaleux que Platon, comme Heidegger, alors qu'il s'engageait dans les affaires humaines, et eut recours aux tyrans et aux dictateurs. Peut-être la cause ne s'en trouve-t-elle pas seulement à chaque fois dans les circonstances de l'époque, mais plutôt dans une déformation professionnelle. Car le penchant au tyrannique se peut constater dans leur théorie chez presque tous les grands penseurs. Voilà, j'arrête.